Bonjour André, tu es un jeune auditeur financier sénégalais et tu conseilles les administrations publiques pour une meilleure gestion financière et transparente. Tu es aussi spécialiste des collectivités territoriales. Parle-nous s'il te plaît de la décentralisation comme pilier de progrès pour les villes africaines.
Salut Rufus, je vais traiter du thème de la décentralisation en Afrique, un pilier du progrès. Alors, le progrès, le développement, c'est d'abord une question de mentalité. Ça peut être aussi le fait d'avoir accès à tous les services nécessaires à la vie et nécessaires au bien-être à proximité de chez soi. C'est-à-dire avoir accès à l'éducation, à la santé, à la sécurité, disposer d'un bon cadre de vie, pouvoir circuler de façon sécurisée, etc. C'est ce qui fait l'attractivité des pays qu'on dit développés aujourd'hui. Si des personnes, en particulier en Afrique, sont prêtes à prendre des pirogues pour traverser des océans, risquer leur vie pour venir en Europe, c'est dans l'espoir d'une vie meilleure. Et une vie meilleure, c'est une vie dans laquelle, quand on est malade, on peut se soigner, quels que soient les moyens. C'est une vie dans laquelle on peut être éduqué, formé. On nourrit l'espoir d'être compétent et d'être donc employable, d'avoir une activité. Tout ce qui permet cela, c'est la décentralisation. La décentralisation, c'est un mode d'organisation d'un État unitaire, c'est-à-dire qu'il y a un État dans lequel il y a, si c'est une république, un président de la république et son gouvernement, qui sont le pouvoir exécutif. Si c'est une monarchie, un roi ou une reine et un premier ministre avec un gouvernement. Mais le pouvoir exécutif ne peut pas être partout dans le pays. Il faut donc des relais locaux, des personnes sur lesquelles s'appuyer au niveau local, des autorités décentralisées, c'est-à-dire élues. Ces personnes au niveau local connaissent les réalités de leur localité, connaissent les besoins des populations et peuvent donc proposer des solutions aux besoins des populations locales. Et la décentralisation permet cela tout en introduisant aussi une notion de surveillance, parce qu'on n'est pas dans un État fédéral où les collectivités, où les États ont une forte autonomie, même régie par la Constitution. On est dans un État unitaire. C'est un seul État avec des collectivités qui ont une autonomie, mais qui restent surveillées. Aujourd'hui, on élit aux élections locales des maires, des conseillers municipaux, etc. Donc cette décentralisation pose des enjeux, pose des problèmes aujourd'hui qui peuvent être de trois natures. D'abord des enjeux politiques, ensuite des enjeux financiers et enfin des enjeux liés au cadre de vie. L'enjeu politique d'abord tient au fait simplement que la décentralisation n'est pas une priorité nationale dans beaucoup de pays en Afrique. Or, aucun pays dans le monde ne s'est développé sans une sérieuse décentralisation. Ça n'existe pas. Il y a forcément des relais locaux qu'il faut renforcer. La situation est parfois vraiment regrettable parce que il y a des collectivités qui sont dirigées par exemple par des maires, des présidents de conseils départementaux ou régionaux qui sont favorables à la mouvance présidentielle. Mais ce n'est pas le cas de toutes les collectivités. Il y a des collectivités qui sont dirigées par des élus d'opposition ou dans lesquelles il y a une majorité d'élus locaux, conseils départementaux, régionaux ou conseillers municipaux, d'opposition. Donc, si le pouvoir central renforce les moyens des collectivités, c'est aussi qu'il renforce potentiellement les moyens accordés à des opposants politiques, ce que ne veulent pas faire généralement les pouvoirs publics. C'est une vision qui ne permet pas de privilégier l'intérêt local. Et la réalité nous conduit aujourd'hui à constater ces situations. Parfois, des élus d'opposition peinent à dérouler leur politique publique que des élus qui sont favorables. C'est une réalité aujourd'hui, en 2023. Et cette réalité doit nécessairement être dépassée si nous voulons progresser. Un début de solution est d'introduire dans le processus d'attribution des dotations le pouvoir judiciaire, notamment la Cour des comptes. Aujourd'hui, la Cour des comptes doit pouvoir formuler un avis sur chaque part de budget accordée à la collectivité territoriale. Puisque les budgets doivent être accordés de façon objective en fonction des moyens de l'État, parce que l'État n'a pas des moyens illimités, mais aussi en fonction des besoins de la collectivité et non pas en fonction de la couleur politique. Si on introduit la Cour des comptes qui formule un avis, ce sera une pression sur les pouvoirs publics, sur le pouvoir exécutif, sur le pouvoir législatif, pour être plus objectif dans le choix des budgets accordés aux collectivités territoriales. Ça peut être un début de solutions. Deuxième enjeu, les enjeux financiers. Les enjeux financiers sont de taille. Comme on dit souvent, l'argent est le nerf de la guerre. Les statistiques indiquent aujourd'hui que dans les 25 pays, par exemple, les plus développés au monde, c'est-à-dire les pays dans lesquels il y a un PIB par habitant le plus élevé, la part de la richesse nationale accordée aux collectivités territoriales est de 30% en moyenne. Près d'un tiers de la richesse nationale est reversée aux collectivités territoriales. Dans les 25 pays les plus pauvres au monde, la part du budget accordé aux collectivités est inférieure à 5%. Ça va même jusqu'à dans les 50 pays les plus pauvres au monde. Parfois, cette part aussi est inférieure à 3%, ce qui pose vraiment des problèmes. C'est parce que cette part est faible que la richesse est mal redistribuée aux populations. C'est à cause de cette situation qu'il y a un grand décalage entre les grandes villes, où il y a plus d'écoles, d'hôpitaux, d'eau, d'accès à la santé, etc., et la campagne de monde rural où on manque cruellement de services de base. Alors, il faut reconnaître, pour tempérer ce constat, que dans les grandes villes, il y a beaucoup plus de besoins, puisqu'il y a une population plus forte, mais mais l'attribution des dotations peut être plus objective d'une part, et d'autre part, les moyens des collectivités territoriales peuvent être renforcés à travers la décentralisation. Un moyen de renforcer ces ressources est d'agir sur la fiscalité locale. Si la France est un pays développé aujourd'hui, c'est-à-dire un pays dans lequel on a à peu près accès à tous les services de base partout sur le territoire national, c'est parce que les collectivités territoriales ont des moyens pour financer des services. Et ces collectivités ont les moyens parce qu'elles ont une fiscalité locale. Elles ont une capacité à capter des taxes liées au stationnement, quand on stationne, on paye, les taxes d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe d'habitation qui a été supprimée et qui était une grosse recette des collectivités mais qui a été remplacée par d'autres mécanismes, la taxe de séjour, la taxe professionnelle, la taxe foncière sur le bâti, sur le non-bâti, etc. Il y a un corpus de taxes qui rendent plus ou moins autonomes les collectivités territoriales en matière financière. Donc, plus les collectivités ont des moyens, plus elles peuvent reverser ces moyens dans la création de services. En Afrique, il y a des pays qui sortent du lot. Par exemple, le Maroc est un exemple en matière de décentralisation. Au Maroc, près de 33% de la TVA est reversée aux collectivités territoriales. La TVA est une taxe payée par tout le monde, puisque tout le monde consomme. Un tiers des produits de la consommation nationale est reversé aux collectivités territoriales au Maroc. Au Sénégal, qui est pourtant un pays à forte tradition de décentralisation depuis près de 50 ans, on est à peu près à 7%. Le taux de 33% au Maroc est un des plus élevés au monde. Ça explique aussi pourquoi le Maroc est en avance en matière de décentralisation sur beaucoup de pays en Afrique et en Europe. Il n'y a pas de secret, c'est une question de volonté politique. Donc il faut se diriger aussi vers ce genre de politique pour renforcer les moyens. Troisième et dernier enjeu, les enjeux du cadre de vie. Aujourd'hui, la population africaine augmente. Comme disait Fatou Diom, ce n'est plus de la croissance, c'est de la surchauffe. On est passé de 640 millions d'habitants en 1990 à 1,4 milliard en 2022. La population double pratiquement tous les 30 ans. Il y a des pays dans lesquels la population double tous les 25 ans. L'ensemble de la population africaine, presque les deux tiers, 66%, est composée de personnes qui ont moins de 30 à 35 ans. Le problème est que la population augmente, mais l'espace n'augmente pas. C'est pourquoi on construit de plus en plus en hauteur. C'est pourquoi il y a plus d'appartements aujourd'hui qu'il n'y avait de maisons en 1990, en 2000, etc. Aujourd'hui, ce manque d'espace, dans les grandes villes principalement, pose un problème d'urbanisation. Prenons un exemple simple. Une personne construit un immeuble de 5 niveaux, rez-de-chaussée plus 4 étages, divise l'immeuble en 2, donc 5 fois 2, 10, 10 appartements. Dans chaque appartement, il y a une famille et chaque famille a une voiture. Mais s'il n'y a pas de parking, où est-ce que ces voitures vont se garer? Elles seront garées sur le trottoir, sur la route, peut-être parfois à cheval sur la route et le trottoir. Ça va poser des problèmes de circulation des piétons, des problèmes de sécurité, des problèmes de cadre de vie. Et je crois qu'il faut se diriger vers des normes plus strictes en matière d'urbanisme. Par exemple, une personne qui investit 150 ou 200 millions de francs CFA dans un immeuble à usage d'habitation a quand même normalement 15 à 20 millions à investir dans un parking aérien ou souterrain si le sol le permet. Donc il faut se diriger vers des politiques de ce genre. Et il n'y a pas que le stationnement, il y a la capacité à absorber une population en termes de réseau d'eau. Parce que si une ville absorbe 5, 10 000, 20 000 habitants sur 10, 20 ans, est-ce que la ville a augmenté sa capacité, son réseau d'eau usée, son réseau de distribution d'eau potable, son réseau d'électricité, etc. Il y a des exemples tristes, par exemple, qui sont posés par le problème de circulation. Il y a des pays dans lesquels des incendies se sont produits, mais les secours ne pouvaient même pas arriver sur place parce que les routes étaient étroites. Elles sont étroites parce qu'on est garé un peu n'importe comment, parce que l'espace est mal occupé. Donc c'est un vrai problème de cadre de vie. Et si on se dirige vers des politiques coercitives, des politiques aussi de décisions plus strictes, plus fortes en matière d'urbanisme, on peut arriver à résoudre ces problèmes sur un horizon de plusieurs années. Il y a encore de nombreux enjeux qu'on peut aborder, tels que le secteur informel, l'intégration du secteur privé, la répartition des compétences entre collectivités, etc. Il faut reconnaître aujourd'hui que les gouvernements ont consenti beaucoup d'efforts pour augmenter la part du budget accordé aux collectivités, c'est vrai, mais ça reste largement insuffisant au regard des besoins. Aujourd'hui, la décentralisation est une manière de distribuer les richesses et c'est un moyen puissant de développement. S'il est bien employé, il peut permettre d'impacter directement les populations et de régler vraiment beaucoup de problèmes. Moins les gens auront de problèmes chez eux, moins ils se déplaceront, plus ils resteront chez eux. Et s'ils restent chez eux, l'activité privée va se développer, il y aura plus d'emplois, il y aura plus de services publics nécessaires et les populations seront plus épanouies sur place.
Note vocale, édition spéciale. Les nouvelles voies qui transforment les villes africaines.